Il est 7h sur France Culture. Bon réveil, si vous nous rejoignez, voici le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Nous avons sauvé la Sécu, affirme Marisol Touraine dans le journal Les Échos ce matin. La ministre des Affaires sociales vise un quasi-retour à l'équilibre du régime général de la Sécurité sociale en 2017. Quelles économies encore à réaliser ? Décryptage avec Jean-Marc Chardon. Le FN enquête de nouveaux électeurs pour 2017. Offensive sur les enseignants. Hier, Marine Le Pen tenait à Paris sa première convention sur l'éducation et l'enseignement supérieur. Reportage de Christine Moncla. C'est un pays qui a déjà l'une des lois sur l'IVG les plus restrictives d'Europe, la Pologne, débat actuellement de l'interdiction totale de l'avortement. À 7h13, le billet économique, Marie Viennot se demandera si le TAFTA, le traité commercial transatlantique, est mort ou pas. 7h15, la question du jour, quel avenir pour les chantiers de Saint-Nazaire ? Un porte-hélicoptère de type Mistral a quitté cette semaine le port de Loire-Atlantique. Et c'est dans ce département que Guillaume Erner et l'équipe des Matins se trouvent aujourd'hui en direct de Saint-Brévin, commune censée et accueillir 70 migrants. Comment peut-on répondre localement à la crise migratoire ? Comment accueillir les demandeurs d'asile en France ? Rendez-vous à 7h40 avec les invités de Guillaume Erner. Le trou de la Sécu va-t-il disparaître ? La ministre des Affaires sociales, Marisol Touraine, affirme en tout cas dans les pages du journal Les Échos ce matin que les comptes de la Sécurité sociale seront quasiment à l'équilibre l'an prochain. Pour le régime général, maladie, retraite, famille, accident du travail, le déficit serait ramené à 400 millions d'euros contre 3,4 milliards cette année. En 2011, nous étions à plus de 17 milliards de déficit. Mais avant d'envisager la disparition du trou de la Sécu, le gouvernement va devoir aller au bout des économies qu'il a engagées, 4 milliards d'euros d'économies à faire sur les dépenses de l'assurance maladie. Des efforts demandés aux patients, aux médecins et aux hôpitaux. Un plan triennal se termine l'an prochain, Jean-Marc Chardon.
Il y a du mieux dans les comptes de la Sécu. Quand le seul déficit du régime général fond de presque moitié en l'espace d'un an, cela signifie une amélioration sensible. On savait que la branche retraite serait excédentaire, dégageant un bon milliard du jamais vu depuis 10 ans. Ce pourrait être mieux encore en 2017 et la branche maladie, responsable de la plus grosse part du déficit, pourrait passer de 4 à un peu plus de 2,5 milliards l'an prochain, une décrue sensible. Pour le gouvernement, la preuve que ces choix ont été efficaces, ce qui fait dire à Marisol Touraine « nous aurons sauvé la Sécu ». Des résultats encourageants, même si la Cour des comptes se montre réservée, qui conduisent le gouvernement à lâcher un peu de lest. Ainsi a-t-il décidé de relever de 1,75 à plus de 2% le plafond de l'objectif des dépenses maladie, ce qui correspond à quelques 700 millions d'euros supplémentaires. Cette bouffée d'oxygène devrait permettre de financer une partie des mesures englobant la revalorisation des consultations des médecins généralistes et des revalorisations de carrière dans la fonction publique hospitalière. Mais pour maintenir le cap des économies, de nouvelles mesures devraient être annoncées, affectant entre autres la gestion des caisses et sans doute la lutte contre la fraude.
Et par ailleurs, 2 jours après que la Cour des comptes eut préconisé un meilleur remboursement des patients et déploré le désengagement de la Sécu, les tarifs des soins dentaires sont au cœur d'une négociation entre chirurgiens dentistes et assurance maladie. La ministre Marisol Touraine veut plafonner le tarif des prothèses et revaloriser les soins conservateurs comme le traitement d'une carie ou un détartrage. Elle l'affirme toujours au journal Les Échos de ce matin. C'est un nouvel épisode dans l'affaire Kerviel et non des moindres. La cour d'appel de Versailles doit rendre aujourd'hui sa décision après le procès consacré aux intérêts civils au mois de juin dernier. En jeu, une somme de près de 5 milliards d'euros que la Société Générale réclame à son ancien trader. Au cours du procès qui s'est tenu en juin dernier, l'avocat général avait estimé que la banque n'y avait pas droit. Hier à Paris, Marine Le Pen a lancé sa première convention présidentielle, un exercice destiné à faire remonter de la base des propositions pour son programme de 2017. Premier thème abordé hier, l'éducation et l'enseignement supérieur, rentrée scolaire et universitaire oblige. Des collectifs d'enseignants et d'étudiants ont remis à la candidate du Front National 100 propositions pour redresser l'école. Marine Le Pen a retenu par exemple l'allongement de la durée hebdomadaire d'enseignement du français dès le primaire, un projet présidentiel qui vise à attirer un nouvel électorat, Christine Moncla.
Ce sont des thèmes de campagne, mais aussi des parts de marché. Le vote FN chez les enseignants est embryonnaire et Marine Le Pen y accorde un intérêt tout particulier. Elle y consacre donc sa première convention présidentielle en jouant sur tous les mécontentements actuels, réforme du collège, rythme scolaire, conflit autour de la laïcité. La candidate frontiste veut en finir avec ce qu'elle appelle les dogmes pédagogistes qui ont, selon elle, miné l'autorité des professeurs.
L'éducation nationale a été le plus grand cobaye de France. Il serait temps qu'on laisse le cobaye se reposer et qu'on en revienne à des principes, certes, oh, c'est sûr, moins innovants, moins créatifs, moins branchés, mais plus stables et plus sûrs. Ceux qui font les programmes, ceux qui imposent les réformes, sont des experts en sciences de l'éducation. Les professeurs n'ont pas besoin d'expertise scientifique. Ils sont les vrais experts en ce qu'ils ont la meilleure expérience qui soit.
À la refondation de l'école de l'actuel gouvernement, Marine Le Pen oppose le redressement du système scolaire. Les collectifs enseignants et étudiants lui ont soumis 100 propositions qui vont du retour de l'uniforme à l'école à la fin du collège unique en passant par l'interdiction du voile à l'université. Un redressement de l'instruction où le prisme migratoire n'est en effet jamais bien loin. Une directrice d'école réclame la suppression des cours de langue d'origine en élémentaire au nom de l'assimilation. Un professeur d'histoire géo déplore pour sa part, je le cite, le grand remplacement de l'histoire de France dans les programmes scolaires. La prochaine convention thématique portera sur les animaux et ce sera l'occasion de parler, entre autres, de la viande halal.
Et pour découvrir tous ceux qui accompagnent la candidate du Front National à la présidentielle, dans l'ombre ou la lumière, rendez-vous sur franceculture.fr, toute une galerie de portraits sur les hommes de la campagne de Marine Le Pen. Il est 7h06 sur France Culture. L'armée syrienne a lancé hier soir une offensive majeure contre la partie rebelle de la ville d'Alep dans le nord du pays. Alep soumise cette semaine à un déluge de feu alors que la communauté internationale n'arrive toujours pas à imposer une trêve des combats. Échec hier de la réunion internationale sur la Syrie à New York. Nouvelle rencontre prévue aujourd'hui entre les chefs de la diplomatie russe et américaine. La guerre en Syrie qui pousse, on le sait, des millions de personnes sur les routes de l'exil. La guerre en Syrie et la misère dans d'autres pays. Un bateau a fait naufrage mercredi au large de l'Égypte, au moins 55 morts. Les rescapés ont raconté leur calvaire à une ONG. On y revient dans le journal de 7h30. Toujours sur la crise migratoire, Amnesty International s'inquiète du sort réservé aux 60 000 migrants bloqués en Grèce. Dans un rapport publié hier, l'ONG dénonce les conditions de vie précaires de ces hommes, de ces femmes et de ces enfants. Ils dorment dans des camps, sous des tentes, à même le sol. C'est dans ce cadre qu'ils attendent leur statut de réfugié pour rejoindre un membre de leur famille sur le territoire européen, Adrien Toffolé.
Pour Amnesty International, le message est clair. Régler le problème des demandeurs d'asile qui veulent rejoindre leur famille, c'est déjà régler une bonne partie du problème des réfugiés bloqués aux portes grecques de l'Union européenne. Car parmi les 60 000 réfugiés présents un peu partout sur le territoire grec et qui attendent de pouvoir entrer librement et légalement, ils sont nombreux à être dans ce cas avec parents et enfants déjà installés en Europe. Ils peuvent passer des mois et des mois à attendre, selon leur dernier rapport, dans des conditions de vie, on le sait, très précaires. Certains sont même des enfants seuls. On compte près de 1500 mineurs non accompagnés dans les camps de réfugiés grecs. La législation européenne est pourtant claire. La famille nucléaire, comprendre une famille avec deux adultes mariés ou non, et avec ou sans enfants, est éligible aux procédures de regroupement familial. Seulement, problème, l'administration grecque est débordée et n'a pas du tout les moyens de traiter rapidement les très nombreuses demandes. Seule solution, à court terme, selon l'organisation, faciliter la demande de visa. Mais pour Amnesty International, c'est avant tout un échec collectif de l'Union européenne. En témoigne la lenteur des gouvernements à tenir les promesses d'accueillir chacun leur part des réfugiés, très loin des objectifs établis en 2015.
En France, à présent, près de 7000 personnes vivent dans la jungle de Calais, selon les autorités. Plutôt 10 000, selon les associations sur place. L'Élysée a annoncé hier soir un déplacement de François Hollande à Calais lundi prochain. Et depuis l'annonce du démantèlement de la jungle, la question du relogement des migrants fait débat. Guillaume Erner y revient dès 7h40 en direct de Saint-Brévin, cette commune de Loire-Atlantique qui doit accueillir 70 migrants. Et à cette occasion, faisons un point sur la création des 9000 places en centre d'accueil et d'orientation d'ici la fin de l'année. Des créations pour désengorger notamment la jungle de Calais. Explication de Salomé Parent.
161, c'est le nombre de centres d'accueil et d'orientation, les CAO, créés depuis novembre 2015.
Répartis sur l'ensemble du territoire, ils accueillent aujourd'hui plusieurs milliers de réfugiés. Avec l'annonce du démantèlement complet du camp de Calais, 12 000 nouvelles places doivent être ouvertes d'ici la fin de l'année. Un objectif difficile, surtout qu'à ce jour, tout centre confondu, il n'y a que 5 000 places disponibles. Un constat qui oblige donc à trouver de nouvelles solutions d'hébergement. Certaines régions comme l'Aquitaine accueilleront jusqu'à 1 500 migrants, quand d'autres ne recevront personne. Jugées comme particulièrement tendues sur la question de l'hébergement, la région Île-de-France et la Corse sont en effet exclues du projet. À l'échelle locale, c'est au préfet qu'il appartient de trouver ces lieux d'accueil. Pour choisir, il s'appuie sur des collectivités au tissu bénévole et associatif suffisamment important, mais aussi sur des structures d'hébergement en dur. À terme, l'implication des collectivités est évidemment capitale. Chacun de ces nouveaux centres devrait pouvoir accueillir entre 100 et 300 migrants, du village vacances au gymnase local. Là aussi, la charge est laissée au préfet d'expertiser les sites à réquisitionner, sans qu'il soit jamais question, insiste Bernard Cazeneuve, de créer des mini-Calais.
Calais et l'immigration de manière plus générale qui était au cœur de la campagne pour le Brexit. 3 mois après le coup de tonnerre du référendum britannique, Boris Johnson, le ministre des Affaires étrangères, a annoncé hier que le gouvernement britannique activerait la clause de retrait de l'Union européenne, le fameux article 50, au début 2017. La Pologne va-t-elle interdire l'avortement ? La question est en débat depuis hier soir au Parlement à Varsovie à l'initiative des conservateurs catholiques au pouvoir, le parti droit et justice. Aujourd'hui, l'avortement est légal en Pologne, mais dans des conditions très restrictives. Et l'Église catholique et ses soutiens veulent aller encore plus loin. Correspondance de Maya Szymanowska à Varsovie.
Deux projets de loi examinés à l'Assemblée polonaise à l'image d'un pays de plus en plus coupé en deux. D'un côté, les libéraux et la nouvelle gauche mobilisés pour la libéralisation de la loi sur l'avortement. De l'autre, les milieux ultra-catholiques qui luttent pour l'interdiction complète de l'interruption de grossesse. Pourtant, la loi existante est déjà l'une des plus strictes d'Europe. Pas question en Pologne d'interrompre volontairement sa grossesse, mais l'Église veut aller plus loin et imposer l'interdiction de l'avortement même en cas de viol, d'inceste ou de malformation irréversible du fœtus, enfin même si la vie de la femme enceinte est en danger. Le parti conservateur droit et justice majoritaire n'a pas imposé de discipline de vote, mais son chef de file, Jarosław Kaczyński, a laissé entendre qu'il voterait pour. Cependant, l'adoption possible de la loi, ce n'est pas pour tout de suite. Plus probablement, les débats houleux autour de l'avortement qui électrisent l'opinion publique sont là pour détourner efficacement l'attention des accusations de népotisme et de manque d'efficacité qui s'accumulent à l'encontre du parti conservateur au pouvoir.
Le temps de ce vendredi après la grisaille matinale, de larges éclaircies sont à attendre sur le pays au cours de la journée. Les températures maximales cet après-midi de 20 à 25 degrés sur la moitié nord du pays, 24 à 27 au sud. Il fera par exemple 21 degrés à Paris, 23 à Nancy, 25 à Perpignan, 26 degrés à Angoulême et 22 degrés à Saint-Brévin-les-Pins où l'on vous retrouve, Guillaume Erner.